Dziet pa priekšu brāļa māsa, pavildama locīdama. Dziet pa priekšu brāļa māsa, pavildama locīdama.
Elles en parlent encore tous les quatrièmes samedis du mois, une émission de Vie Féminine Bruxelles.
Kalnu kāpu dažu labu ieleņu, dažu labu kalnu kāpu dažu labu ieleņu.
Bonjour chers auditeurs et chères auditrices, vous êtes sur Radio Panique 105.4 et vous écoutez l'émission de Vie Féminine Bruxelles, elles en parlent encore. Aujourd'hui notre émission portera sur l'espace public. Les femmes, les hommes circulent dans la rue, vont faire leurs courses, vont travailler, prennent le métro. Mais l'espace public est-il égal pour tous et toutes? Est-il égal pour les femmes? Voilà le thème de cette émission. Voilà, donc pour parler de l'espace public d'un point de vue des femmes, nous avons quelques invités autour de la table et je donc leur laisserai le plaisir de se présenter.
Bonjour, je m'appelle Najette, je suis une femme qui travaille chez les féminines depuis bientôt 16 ans. Alors, tout ce qui est en rapport avec les femmes, ça m'intéresse. Quand je passe dans la rue et que je vois une femme, je la regarde, même si je ne la connais pas, et j'essaie un petit peu de la regarder avec un regard qui peut lui apporter quelque chose. Parce qu'actuellement, la femme a beaucoup changé, mais seulement il y a encore autour des pressions. Des pressions sociales, comme par exemple par rapport à son comportement dans la rue. Elle est tout à fait normale, mais les hommes, ils voient comme quoi les jeunes filles, ils exagèrent dans leur façon de s'habiller. Et c'est pour ça que les féminines, on a travaillé sur, avec les féminines, on a travaillé sur un manifeste « Levez les yeux ». Parce que les femmes ont tendance à marcher les yeux en bas et la tête en bas. Pourquoi pas lever la tête carrément? Ils existent et si le monde existe par les femmes. C'est quelque chose que les hommes oublient aussi.
Je te remercie, Najette. Yolène, peux-tu te présenter?
Bonjour, ici Yolène. Donc, je suis animatrice socioculturelle. J'ai été stagiaire à la Maison Mosaïque de Saint-Gilles pour un atelier conte, la marche exploratoire et un atelier théâtre qui, tous trois, parlaient du vécu des femmes dans la ville parce que ça reprenait le thème de Vie Féminine, femmes en ville. Voilà.
Merci Yolène.
Alors, moi c'est Élise, je travaille pour l'association Garance qui, grosso modo, en fait, travaille pour donner aux femmes et aux filles le sentiment et efficacement plus de force et un sentiment de sécurité, et en donnant entre autres des stages et des cours d'autodéfense et de défense verbale.
Merci.
Bonjour, je suis Amélia, je suis architecte urbaniste, je travaille sur des projets d'aménagement des espaces publics et sur le développement local. Et j'ai eu l'occasion, depuis quelques temps, de travailler avec Vie Féminine dans des projets, le projet Femmes en ville, qui essaye d'apporter, de montrer le regard des femmes sur les espaces publics.
Je vous remercie d'être toutes présentes aujourd'hui. Et donc, la première question que je voudrais poser à nos invités, c'est comment vous définiriez, vous, l'espace public? Voilà, qu'est-ce qui s'y joue? Qu'est-ce qui s'y fait? Qu'est-ce qui s'y passe? Élise, peut-être que tu veux répondre à cette question?
Ben oui, en fait, pour moi, ce qui se joue dans l'espace public, c'est les rapports entre des gens de différentes classes sociales, des gens de différentes origines ethniques, des gens de sexes différents, donc aussi éduqués différemment. Voilà, ça pour moi, c'est ce qui se joue dans l'espace public, oui.
Bon, mon regard est plus du point de vue d'urbaniste, mais je suis d'accord avec ce que vient de dire Élise. Et je dirais que dans la ville, les espaces publics sont par opposition à l'espace privé. Ce sont des espaces qui sont accessibles à tous. Donc, on pense tout de suite à la rue, à la place. Mais il y a aussi les gares, les stations de métro, le théâtre, les églises, les bâtiments de l'administration publique. Tout ça, ce sont des espaces qui, en principe, ils devraient être ouverts à tous. Ce sont des espaces aussi de connexion. On pourrait dire que la ville, elle n'existe qu'en fonction de ces espaces-là. Sinon, ce serait une accumulation de petits espaces privés et isolés. Donc, ce sont des espaces publics qui donnent le sens à la ville, qui définent l'espace urbain. Dans la pratique, ça c'est la théorie, mais dans la pratique, les espaces publics ne sont pas équitables. Je veux dire, ils ne sont pas. On sait qu'il y a des espaces qui sont ciblés, qui sont réservés ou qui sont interdits à certains types de personnes, à certains types de publics. Et pourquoi ça se passe? Bon, les espaces publics, ce sont des espaces des liaisons, donc des communications, où les gens se rencontrent, où les gens échangent, où il y a donc on se montre les différences. Ce sont des espaces de confrontation. Donc il y a dans cette mise en rapport des différences, il y a un jeu de pouvoir. Dans la réalité, il y a une main, je sais pas comment dire ça en français, mais on exerce un pouvoir. On peut contrôler l'accès de différentes façons. En moyen très très clair, on peut carrément fermer un espace qui en principe devait être public. On voit au Brésil, je suis brésilienne, on voit au Brésil un phénomène qui devient de plus en plus courant, que ce sont des rues privées, les habitants d'une rue. En tant que mesure de sécurité, ils ferment la rue, ils mettent des personnes à surveiller, ils n'entrent dans cette rue que les personnes qui s'identifient, donc l'accès est permis. Mais il y a des façons beaucoup plus subtiles et peut-être, à mon avis, plus dangereuses d'interdire l'espace public à certaines personnes, à certains groupes. Et ça, ça s'est fait d'une façon, à travers les conventions, ça se manifeste à travers des conventions sociales. On sait que quand on est dans un espace public, c'est vrai qu'on se montre, on montre ce qu'on est, mais d'une façon, on peut étudier. On sait qu'il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Il y a un code, une convention, c'est donc un code implicite. Et ça fait dans certains lieux, un contrôle social soit exercé et les comportements de différentes personnes, mais surtout de certains types de groupes, de certains types de personnes, contrôlés, soit réglés par ces conventions, par ces codes implicites.
Merci Amélia pour ton intervention. Je vais m'en faire ensuite la parole à Yolène qui avait envie de réagir et puis à Najat. Yolène.
Mais justement, je voulais parler de la différence entre la théorie démocratique et la réalité, donc la pratique. Et en tant qu'usagère de la ville à toute heure et en tout lieu, je constate en effet qu'il y a des conventions qui viennent des mœurs, qui viennent de la culture, je dirais même de toute culture confondue, et une espèce de convention que la femme ne va pas dans les bars, la femme qui est en discothèque, elle va pas là pour danser alors que c'est un endroit pour danser au départ, elle va forcément là pour être draguée ou carrément draguée elle-même. Et donc il y a un tas de conventions sociales, de consensus qui fait que une femme seule le soir, elle est forcément célibataire. Une femme qui va dans le café, c'est très mal vu, l'alcoolisme. Chez les femmes, maintenant, avec le tabac, c'est relancé, c'est rebelote. Et donc, il y a en effet des conventions sociales qui font que on n'est pas accepté partout, n'importe comment, à n'importe quelle heure. Et d'autant plus qu'on doit réfléchir également à notre comportement, à ce qu'on va dire et à comment on va s'habiller. Et j'espère que les esprits vont un peu s'élargir dans l'avenir à ce niveau-là, et que justement les lieux deviendront plus accessibles. Et je pense pas qu'aux discothèques, je pense aux bars, aux night shops, à n'importe quel autre lieu, même place publique tout simplement.
Merci Yolène. Najat, est-ce que tu aurais envie de nous en dire un peu plus sur comment les femmes vivent l'espace là où tu habites, de ton expérience?
C'est-à-dire, j'ai l'impression et je constate comme quoi les femmes ne profitent pas de l'espace public comme les hommes. Ils sont un petit peu, si je peux dire, dirigés par la société à aller dans cette rue parce que là, il y a un café, tu ne peux pas passer par là, je passe mes jours là ou bien ils ne peuvent pas circuler librement s'ils sont vraiment habillés, modernes et tout ça. Les jeunes filles, ils sont vraiment interpellées par leur façon de s'habiller aussi. Ce sont des filles qui grandissent ici en Europe, mais on leur impose des tas de trucs aussi. Et l'espace social, je crois que c'est important pour les femmes, parce que la femme, en général, c'est elle qui va à la recherche de ces espaces, soit pour aller dans un parc, elle prend ses enfants, soit pour aller dans une plaine de jeux, soit pour aller faire des activités dans une maison mosaïque. Cet espace, j'ai l'impression que ça ne leur appartient pas. Ils sont vraiment...
Mais Najat, merci pour ton intervention. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres opinions par rapport à cela? Tu voulais raconter une anecdote, Élise, à propos d'un vélo, je crois.
Oui. Ben oui, par rapport à ça, donc par rapport à ces conventions et tout ça, à tout ce qui peut être attribué aux hommes et aux femmes comme comportement, c'est-à-dire qu'est-ce que les femmes doivent faire, peuvent faire, qu'est-ce que les hommes doivent faire et peuvent faire. Moi, j'ai une petite anecdote, c'est que j'ai un vélo de garçon, c'est un vélo de course. Et j'ai plusieurs fois été interpellée parce qu'apparemment ça pose problème quoi dans l'esprit de certaines personnes de voir une femme sur un vélo d'homme. Alors il y en a qui le prennent pour de la provocation, il y en a qui trouvent ça marrant, il y en a qui mais disons que de manière générale, chaque fois que j'utilise ce vélo, je suis confrontée au fait que ça pose des questions quoi. Les gens
qu'est-ce qu'ils te disent?
Voilà, mais ils me disent hier, moi, j'étais devant chez mon papa, il y a une voisine qui me dit « Ah, t'as un vélo d'homme, toi ?»« Ah, dis donc, ça, c'est drôle !» Je dis « on roule très bien sur un vélo d'homme, il est très confortable. » Voilà. Et voilà, enfin, j'ai eu des provocations aussi plus agressives, mais ça, je n'ai pas forcément envie de les raconter.
Donc, il faut voir si c'est à suggérer comme, ou pas comme conseil, le fait d'acheter un vélo d'homme ou un vélo de femme, mais ça, on pourra en reparler dans un autre moment. Nous allons maintenant avoir une pause musicale avant notre prochaine intervention. C'est Cabra Mecánica, la lista de compra. Bonjour, vous êtes sur Radio Panique 105.4 et vous écoutez l'émission de Vie Féminine Bruxelles, elles en parlent encore. Chers auditeurs et auditrices, vous écoutez une émission qui traite de l'espace public et sur l'aspect inégalitaire de l'accès à l'espace public. Donc nous avons parlé de la définition de l'espace public, en quoi l'espace public était inégalitaire. Et donc maintenant je souhaiterais demander à nos invités... quelles sont les actions que l'on peut mettre en place par rapport à cette question? Donc, je vais demander, j'ai posé la question tout d'abord à Élise de l'ASBL Garance.
Oui, moi, ce que je pense, c'est que au niveau de comment les femmes se servent de l'espace, non seulement de l'espace qui a dans lequel elles circulent, mais aussi comment elles se déplacent dans cet espace, c'est-à-dire physiquement, comment est-ce qu'elles utilisent l'espace, quel usage elles font de leur corps par leur mouvement. Leur déplacement, on sait qu'il n'est pas forcément recommandé aux femmes de prendre de la place, d'être volubile, de se montrer. On a plutôt tendance à imaginer, par exemple, le soir, une femme qui marche dans la rue, elle essaie de se faire discrète, elle rase peut-être un peu les murs et tout ça. Moi, j'ai l'impression que c'est indispensable, en fait, d'être présent, d'être très présent physiquement, d'être présent en nombre aussi, que les femmes soient présentes en nombre dans l'espace public. Je pense que ça peut donner une autre image de l'espace public et une autre image de la femme dans l'espace public. Donc une aisance de mouvement développée chez les femmes, une aisance de mouvement, une aisance de par rapport au fait de prendre sa place, d'être là et d'exister là, quoi. D'exister dans l'espace où tout le monde est censé pouvoir exister.
Mais concrètement, Élise, comment vous invitez les femmes à être comme ça? Parce que c'est sans doute pas si facile que ça et naturel de se balader ensemble, d'être à l'aise avec son corps. Donc qu'est-ce que concrètement vous mettez en place?
Alors,
pour répondre à cela.
L'association Garance donne des stages et des cours d'autodéfense et de défense verbale. Et un des pôles, en fait, qui est travaillé pendant les stages d'autodéfense, c'est justement tout ce qui est mouvement. On développe fort l'aspect mouvement. On leur demande de faire des choses qu'elles n'ont pas l'habitude de faire.
Comme quoi, par exemple ?
Eh bien, on travaille simplement l'assertivité physique, c'est-à-dire la réponse à l'agressivité physique. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'ai le droit de répondre à une agression physique avec mon corps ? Et on développe, on apprend à donner une... Enfin, d'abord à résister à une série de... d'attrapes, on va dire, physiques, et puis aussi donner éventuellement des coups, connaître les points vulnérables d'un adversaire, etc. Donc voilà, c'est vraiment ça, c'est s'approprier le droit d'intervenir physiquement dans l'espace public et de pouvoir aussi répondre à une agression si jamais elle doit avoir lieu. Mais bien sûr, c'est pas ça qu'on apprend à faire en tout premier, ça c'est toujours le cas d'un dernier recours où tout ce qu'on apprend en défense verbale n'aurait pas fonctionné. Voilà.
Donc quel exemple de défense verbale peux-tu donner, un petit truc comme ça pour les auditrices ? Est-ce qu'il y a des exemples concrets auxquels tu penses, de choses dans la manière dont on peut parler aux hommes
Oui, ce dont j'ai d'abord envie de parler, c'est de nouveau l'usage, dans la défense verbale, l'usage du corps joue aussi énormément parce qu'au niveau du langage non verbal, il y a quelque chose qui se dégage très très important dans la posture, en fait. Dans la posture et dans la voix avec laquelle on parle. Donc voilà, nous on travaille avec ces outils-là, avec les femmes, on en discute d'abord et puis ensuite on y travaille.
Donc concrètement, vous organisez des ateliers de quelques jours ou...
Ça c'est très très fluctuant en fait. On organise des stages pour grand public. Alors oui, là il y a les stages de défense verbale sont des stages d'une journée et les stages d'autodéfense sont des stages de 2 jours qui se déroulent en général le week-end. Et puis, on a aussi toute une activité avec des lieux plus spécialisés, en fait, qui sont liés à la vie des femmes, en association, quoi. Et alors là, ça se déroule tout à fait différemment, c'est en fonction. Voilà.
Merci, Élise. Amélia, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le type d'action à mettre en place pour regarder la ville autrement, d'un point de vue des femmes ?
Je dirais que du point de vue de l'urbanisme, il est important qu'on prenne, on reconnaisse les femmes comme un usager spécifique. Ça, c'est une tendance de l'urbanisme d'aujourd'hui, de ne pas penser à l'usager, comme ne pas avoir l'idée d'un usager moyen, qui serait un homme entre 35 et 50 ans, etc. Mais de reconnaître que dans un espace public, on a pas un usager moyen, mais on a différents types d'usagers, différentes catégories d'usagers, et que chacune de ces catégories a des besoins spécifiques. Donc on peut penser aux personnes à mobilité réduite, aux personnes âgées, aux enfants, et notamment aux femmes, qui ont des besoins, qui ont des exigences, on pourrait dire, différentes de celles des hommes. Et surtout si on reconnaît que les femmes sont majoritaires dans la ville, en termes de démographiques, elles sont plus nombreuses. Alors, il y a des initiatives qui prennent en compte l'avis de l'usager, qui essayent d'écouter l'usager au moment de penser les projets. Il y en a encore peu qui prennent la femme en tant que groupe spécifique. Et ces initiatives, elles sont relativement récentes. Mais il faut aussi faire attention au fait qu'on a la tendance à écouter les femmes, surtout sur l'espace de proximité. Pendant qu'on voit aujourd'hui, les femmes, elles n'est plus, même si parfois elles restent encore très dans un espace de quartier, dans un espace de proximité, il y a un grand nombre qui se déplacent dans la ville et même au-delà de la ville. Et surtout que les femmes ont envie de sortir de leur territoire, n'est plus comme il y a, on pouvait penser, il y a 100, 150 ans, les alentours, l'environnement de la maison. Les femmes veulent, ils sont en train d'occuper la ville entière. Donc il faudra les entendre aussi à l'échelle de la ville, donc au niveau d'autres services que celui du quartier.
Merci Amélia. J'ai entendu parler des marches exploratoires. Il y a une marche exploratoire à la Maison Mosaïque de Saint-Gilles qui s'est déroulée, auquel Amélia et Najat ont participé. Mais donc je demanderai l'avis de Najat sur concrètement, c'est quoi une marche exploratoire? Qu'est-ce qui s'est passé avec les femmes? Qu'est-ce qui a évolué?
Oui, la marche exploratoire, c'était vraiment une découverte pour les femmes. Ils ont fait.
Tu veux dire, donc, peut-être la marche exploratoire, il faut peut-être expliquer ce que c'était. Les femmes, elles se sont promenées dans le quartier.
Les femmes,
Ah, un petit problème de micro. Excusez-moi, chers auditeurs et chères auditrices.
La marche exploratoire, c'est un événement très important pour les femmes, puisque ils ont.
Bon, c'est ce micro-ci. Il n'y a pas de problème. Vas-y. Donc, des marches exploratoires, dis-nous. Il n'y a pas de problème. Je vais peut-être de redemander la parole à Amélia pour que tu expliques un peu la marche exploratoire et ce qui s'est passé à Saint-Gilles.
Donc, la marche exploratoire, en fait, c'est le principe de faire une évaluation d'un territoire dans la ville, un diagnostic de ce territoire, en se promenant dans la ville. Et c'est le principe du diagnostic urbanistique. Mais la marche exploratoire, c'est donc un diagnostic qui est fait par un groupe de femmes. Cette idée, elle est née, elle a été d'abord mise en place au Canada. Après, elle a été un peu expérimentée un peu partout. Et ici, en Belgique, il y a plusieurs expériences qui ont été réalisées à Liège, à Anvers, et celle dont nous parlait Najat, à Saint-Gilles, dans une initiative de la Maison Mosaïque de Saint-Gilles. Et Najat était donc une des animatrices. Et la marche consiste c'est un groupe de femmes qui s'est réunie, qui discutent un peu ce qu'est leur lieu, le territoire quotidien de vie, et après établit un parcours et sort et dans la ville en groupe à observer, à prendre des photos, à prendre des notes, et dans le but de réfléchir sur cette matière après. Mais déjà, l'événement en soi-même, c'est déjà quelque chose qui permet aux femmes, au groupe de femmes, de prendre, d'occuper autrement l'espace public.
Et donc, concrètement, qu'est-ce qu'elles ont découvert? Comment ça s'est passé? Elles étaient combien? Qu'est-ce qu'elles ont vu? Qu'est-ce qui est ressorti comme enseignement?
Donc, la marche exploratoire à Saint-Gilles réunissait, je ne suis pas vraiment sûre du nombre de personnes, peut-être Najat le saura mieux que moi, mais c'est environ une trentaine.
Plus de personnes.
Voilà. Et c'était une partie, c'était des habitants de Saint-Gilles. Il y avait un groupe qui venait de Marolles. Il y avait des femmes de différentes origines, beaucoup d'origines marocaines. Nous avions des femmes de l'Amérique du Sud, de l'Équateur, une africaine. Ouais. Peut-être Najat peut compléter un peu ce que j'ai dit.
C'est-à-dire, il y avait un petit peu de parmi les femmes de toute nationalité. Et alors, on voyait dans leur visage, quand on a parlé de l'espace, de la marche exploratoire, on voyait sur leur visage une lueur comme ça d'espoir. Ils étaient partantes, chacune déposait ce qu'elle vit dans son quartier, d'Anderlecht, de l'autre côté. On a rassemblé nos idées, ils étaient partantes pour aller au parc, pour observer, voir ce qui ne va pas, ce qui va, ce qui les arrange, ce qu'il faut faire. Et ils avaient même dit qu'ils voulaient participer au nettoyage des parcs, qu'il n'y avait pas de problème, parce que la nature, le parc pour eux, c'est synonyme de la nature. Ils ont aussi parlé de la pollution, et se sentaient étouffés par les voitures et tout ça, et que c'est dans les parcs qu'ils retrouvent un petit peu un bien-être.
Donc Najat, je crois savoir que tu fais partie d'un comité de quartier dans les Marolles. Et donc, ben voilà, qu'est-ce que le comité de quartier fait très concrètement, si tu te sens à l'aise pour répondre à cette question?
C'est-à-dire, je voudrais revenir pour ce qu'elle a dit. J'ai aussi suivi le
stage
de France, oui. De Carence. C'était vraiment une bonne initiative, et ça, je l'ai suivi à l'entraide des Marolles. Et je vous assure, ça nous a beaucoup apporté, parce que les femmes ont tendance à avoir peur de tout, à ne pas réagir. Bon, pour moi, personnellement, moi, je réagis. Moi, je me tais pas, même s'il y a un danger, je suis là, je dois réagir. Et à mon avis, toutes les femmes doivent réagir, parce qu'on est quand même un être humain, comme l'homme. Ben, si ça va pas, on se défend, on parle, on crie, on ne doit pas se taire toute notre vie. Soit par rapport à mon expérience dans le quartier, pour l'instant, on est sur un projet d'éducation. C'est aussi à l'entrée des Marolles. C'est un projet que les femmes du quartier des Marolles ont pris eux-mêmes la responsabilité. Par rapport à la délinquance des enfants à bas âge, de 7 à 15 ans, on essaie un petit peu ensemble de trouver les solutions avant que ça ne soit vraiment, qu'on arrive vraiment aux mains des professionnels. Et alors, je suis active aussi dans les écoles comme bénévole. J'adore tout ce qui est éducation. On est impliqué dans l'éducation, qui est vraiment une partie de notre vie qui est très importante. Et j'ai participé aussi au comité de quartier, habitat et rénovation. C'était aussi dans le but d'ensolider un petit peu la convivialité des voisins. Et ça, c'est, ils ont fait des photos de chez les habitants du quartier. Et je suis fière d'avoir participé, parce que j'étais la seule marocaine qui a ouvert ses portes pour qu'on puisse faire une photo. Et après, j'étais un petit peu collée sur les poubelles dans la rue. Ça m'a fait très plaisir. Et je me suis posé des questions. Je me suis dit, comment ça se fait que le quartier, il est plein de Marocains, ils n'ont pas réagi? Pourquoi ils n'ont pas ouvert leurs portes? Et pourtant, ils sont hospitalières. Mais pour une cause comme ça, c'est là où ils doivent encore ouvrir leurs portes. C'est pour le bien-être aussi des citoyens et tout ça. Je me suis posé des questions le lendemain, je me suis retrouvée en face des femmes qui me posent des questions. Comment ça se fait que tu as fait ça? Et ton mari, est-ce qu'il le sait? J'ai dit, écoutez, mon mari, moi, je lui dis tout ce que je fais. Et si je le fais, mon mari, il est conscient que c'est pour le changement et pour le bien de la société. Voilà.
Merci Najat pour ce superbe témoignage. Et donc je crois que ça fera lien avec ce que Yolaine avait envie de nous dire sur la question des femmes qui sont citoyennes et qui prennent le quartier en main. Donc l'espace public, c'est au-delà de l'espace physique. Ça comprend l'aspect de marcher dans la rue, mais c'est aussi comment on va prendre un quartier en main. Yolaine.
Voilà, comme vient de le dire si bien Najat, Magali, Amélia et Élise, excusez-moi. Donc, en effet, les marches exploratoires permettent une expression à des femmes qui ont peut-être justement la barrière du langage. Et via les marches exploratoires, elles se sentent peut-être incluses dans la vie de citoyenne. Et c'est pour ça que je trouvais ça, au niveau sociologique, vraiment très, très important. Parce que ça permet à des femmes qui ont la barrière du langage ou la culture qui les retienne à la maison, de pouvoir justement sortir et s'exprimer sur quelque chose qui, j'aime pas ce mot, quelque part un lieu qui leur appartienne. Elles se sentent concernées et donc en effet, garant c'est une première, je dirais, autonomie, une première appropriation de l'espace, c'est de se défendre verbalement et physiquement. Mais je pense que en dehors de cette participation de l'espace, on peut devenir citoyen actif en se réunissant autour d'un projet commun via une ASBL, une institution, la commune. Et voilà, je pense que être citoyen actif est également important dans l'appropriation de cet espace.
Merci Yolaine. Maintenant, nous allons faire une petite pause musicale. C'est la musique du film Amélie Poulain. Bonjour chers auditeurs et chères auditrices, vous êtes sur Radio Panique 105.4 et vous écoutez l'émission de Vie Féminine Bruxelles. Elles en parlent encore. Vous écoutez une émission aujourd'hui sur la question de l'espace public. L'espace public est-il égal pour les femmes et les hommes? Nous avons défini l'espace public et nous avons parlé un peu des actions que nous pouvons mener à ce sujet. Et donc nous allons continuer sur cette lancée. Et donc, je vais poser la question à Amélia de quelles sont ses expériences de travail avec les femmes et les habitants de manière générale en lien avec les acteurs publics tels que les communes ou les villes.
Bien, donc on a parlé des marches exploratoires, que c'est une forme d'atelier dans le sens où l'atelier d'urbanisme, c'est un travail collectif pour penser un espace public, un projet. C'est ce qu'on appelle dans le jargon urbanistique, on dit un processus de coproduction. C'est-à-dire qu'à la place de penser un espace public, de laisser que l'espace public soit conçu par un expert, entre guillemets, par un technicien, on va travailler avec ceux qui vont occuper cet espace, qui ont déjà occupé d'autres espaces semblables et qui ont quelque chose à dire, un savoir-faire. Les ateliers d'urbanisme ne sont pas des choses nouvelles, ça existe depuis longtemps. On a beaucoup d'expérience en France et même à Bruxelles dans le cadre de la rénovation urbaine. Comme je disais avant, ce qui est intéressant, c'est maintenant penser à des ateliers qui réunissent des groupes d'usagers spécifiques comme le groupe des femmes. Il y a ces initiatives, il y a des exemples d'initiatives qui ont été mises en place. Je connais notamment deux en Hollande qui étaient des projets de quartier, tout un quartier résidentiel qui devait être conçu et dont le maître d'ouvrage était un acteur public. Et dont le projet a été conçu avec la participation de différents groupes d'usagers, dont des groupes de femmes. Et c'est intéressant de voir qu'il y a des remarques, qu'il y a au moment où on programme l'espace, où on dit ce qu'il doit, comment il doit être, cet espace qui n'existe pas encore, on va voir qu'il y a des points sur lesquels la vie des femmes et des hommes sont vraiment. Il y a un regard différent si on est une femme. Un exemple très concret, par exemple, c'est la question des trottoirs. C'est peut-être un exemple connu, mais il illustre très bien. Quand on parle de trottoirs et de traversées, les femmes, elles ont une vision beaucoup plus détaillée, des exigences beaucoup plus précises, parce qu'elles ont vécu de se promener avec des poussettes d'enfants, avec des enfants par les mains, avec des achats, de se promener vite, parce qu'elles sont entre deux tâches différentes. Et donc, elles peuvent poser des critères d'aménagement, des critères techniques qui vont orienter le chantier, la construction, et qui sont très spécifiques. Mais il y a aussi des remarques qui sont beaucoup plus en termes de gestion, de fonctionnement, de conception même, de principes, comme la question des heures d'ouverture, d'accessibilité dans certains... d'un espace public, d'une place, comme la question de l'éclairage. Les femmes sont beaucoup plus sensibles à la question à la sécurité. Elles sont souvent des victimes, les premières victimes de l'agressivité dans l'espace public. Et elles sont donc beaucoup plus... elles réagissent très vite à cette question et peuvent donner des pistes très intéressantes sur des mesures qui contribuent à rendre plus sûrs les lieux.
Merci Amélia. Élise, tu voulais parler d'une expérience aussi à ce sujet que vous allez en tout cas entreprendre?
Oui, en fait il s'agit d'un projet qui va être mené en collaboration avec la STIB et c'est un projet qui visera également à sécuriser une station de métro et qui sera mené en collaboration avec des groupes de femmes âgées. Donc voilà, le public cible ici c'est tout le monde évidemment, mais plus particulièrement les femmes âgées.
Mais tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus sur les femmes âgées, en quoi c'est spécifique?
Oui. Alors en fait, nous on considère que on a eu envie de se faire ce projet par rapport à elles parce que d'après des recherches qu'on a menées, on a vu qu'elles se sentaient particulièrement pas bien, mal à l'aise, vulnérables dans les transports en commun, qu'elles avaient l'impression que les stations n'étaient pas adaptées à leurs besoins et tout ça. Et il faut dire aussi que, culturellement, les femmes âgées sont au premier plan. D'abord, elles sont victimes des séparations de genre et de la hiérarchie qu'il y a entre hommes et femmes et tout ça. Il y a ça. Et il y a aussi le fait que, évidemment, on vit dans une société qui valorise plus la jeunesse et tout ça. Donc elles sont femmes, elles ont déjà quelque part un désavantage et puis elles sont âgées. elles ont un deuxième désavantage. Et puis ce qu'il y a aussi souvent, c'est que comme on sait que les femmes, elles ont une espérance de vie plus longue, ben, il y en a beaucoup qui se retrouvent seules, qui vivent seules. Donc il y a tout un agencement de choses qui crée une situation où les femmes âgées se sentent particulièrement vulnérables. Voilà.
Merci. Najat, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ton expérience d'entraide des Marolles, sur vos actions?
Oui, je voudrais rajouter aussi que au sein de l'entraide des Marolles, à part le projet d'éducation qu'on a avec l'assistance sociale Latifa Serini, il y a aussi plusieurs projets comme atelier cuisine, il y a aussi de la gym, la danse, il y a plein de choses qui se fait pour que la femme puisse bouger dans le quartier. Et alors on va aussi un flux de femmes qui est très important. Je crois qu'il y a même plus de 100 femmes qui bougent, qui veulent faire quelque chose pour sortir un petit peu de leur cocon. Oui, parce que c'est de trop rester à la maison et rester en train de penser. Et en attendant, il y a beaucoup de choses que tu peux faire.
Et en quoi la cuisine et toutes ces activités, ça aide les femmes à sortir du quartier? Est-ce qu'elles se renforcent ou...
C'est-à-dire, ça leur permet de se rencontrer, de partager leurs idées, même par rapport à la cuisine. Il y a chacune qui prépare son plat de sa manière. Et c'est aussi pour un petit peu trouver un moment de convivialité, là où il peut se respirer aussi. Parce que une femme qui reste à la maison toute la journée, ce n'est pas évident. Et on n'est plus dans cette époque. Il faut que les hommes aussi les laissent respirer un petit peu. Parce que si l'homme est là, c'est parce que la femme est là aussi. Hein, on ne serait pas l'un sans l'autre. Alors il faut que la femme aussi apprend à vivre comme l'homme. On dirait qu'il est né avec cet appétit de vivre. Et la femme, on doit lui couper la respiration. Ça, je suis pas d'accord. Je suis une féministe convaincue et que toutes les femmes, ils ont le droit de faire les choses dans le bon sens. Et qui sont libres d'un petit peu de gérer leur intérieur. Que par exemple, il y a des femmes qui ne peuvent même pas gérer leur petite maison, quoi. Ils peuvent rien gérer, mais ça c'est vraiment triste. L'homme doit penser d'abord. Quand il pense pas à une femme, il doit penser à sa mère, à sa fille. Il est entouré de femmes. S'il n'y avait pas de femmes, il n'y a pas de monde.
Merci Najat. Yolaine, tu avais une expérience à nous raconter par rapport à des types d'actions que l'on entreprend.
Eh bien, tout simplement, ça revient à la marche exploratoire qui a eu lieu à Anvers. Et après cette marche exploratoire, les femmes ont demandé à la ville d'installer beaucoup plus de toilettes publiques. Et ce qui a été fait. Donc, tout ça pour dire que les marches exploratoires, c'est pas juste un mode d'épanouissement, une façon de devenir citoyenne. C'est aussi pour avoir quelque chose de concret.
Voilà. Donc, je pense qu'on a encore besoin de toilettes publiques à Bruxelles. Amélia, j'avais envie de te poser une question. Donc, dans l'espace public, de ce que l'on dit, il y a d'une part comment on marche dans l'espace public, comment on se comporte avec le corps, mais il y a aussi comment on construit l'espace public, donc des espaces ouverts, fermés. Mais il y a aussi la question de la gestion de l'espace public. Oui. Est-ce que peut-être tu peux nous dire un petit mot là-dessus, très concrètement?
Oui, bon, je dirais que c'est comme tu dis, il a une part la forme, donc les contenants, et d'autre part la façon dont on occupe cet espace. Et la façon dont on l'occupe, on a déjà dit, c'est très conditionné par des conventions, donc par des valeurs qu'on a incorporées de façon presque inconsciente, mais aussi par la façon dont les responsables pour cet espace, les acteurs publics ou les gens qui ont un pouvoir d'organisation de cet espace, les gèrent. C'est ce qu'on appelle la gestion. Je pourrais donner comme exemple les heures d'ouverture d'un parc ou les heures d'ouverture d'un bureau d'information ou d'un guichet d'une gare. Tout ça, ça va influencer la façon dont on occupe, la façon dont on circule dans la ville. Alors, il y a, je pourrais donner comme des exemples. J'ai parlé au départ de l'exemple de lieux d'achat, des shopping centers qui sont pour lesquels on doit payer pour entrer. Donc, c'est une façon de gérer l'espace et en même temps de contrôler l'accès. On établit d'une façon indirecte, on fait un triage de ce qui peut arriver. Il y a aussi toute la question de, dans une place, dans les rues, dans les places, de qui surveille, qui entretient. Et Najat nous a parlé que quand on a fait la marche exploratoire à Saint-Gilles, les femmes ont parlé beaucoup de l'état de la propriété des lieux et de l'entretien des parcs et des jardins, de l'éclairage et tout ça. Ce sont des facteurs qui sont matériels, mais qui jouent très fort sur la façon dont on occupe ces espaces et qui sont dépendantes de ces modes de gestion. Et donc, je pense qu'il a aussi, la marche à Saint-Gilles nous a donné beaucoup de pistes sur la gestion des espaces, sur comment les entretenir et comment ça pourrait jouer sur leur appropriation.
Merci Amélia. J'ai une petite question pour Yolaine qui a pas mal travaillé à Vie Féminine. Est-ce que la gestion de l'espace public, c'est pas aussi travailler sur la prévention, la sensibilisation des mentalités? Najat, tu disais tout à l'heure que les femmes ont du mal à sortir. Il y a quand même une relation homme-femme qui n'est pas égale. Donc peut-être que tu peux nous en dire un peu plus, Yolaine, sur qu'est-ce qu'on peut faire et travailler avec ces femmes ainsi que Najat par après.
Bon, déjà, le fait qu'elles sortent de chez elles, c'est déjà super. Qu'elles sont motivées à participer aux ateliers, c'est encore mieux. Mais ce qui est important surtout, c'est de suivre la demande de ces femmes, c'est-à-dire de ne pas venir avec son beau livre et son gros cartable et dire « voilà, moi, je vais vous enseigner ce que c'est la citoyenneté », mais c'est partir de leur vécu et de voir qu'est-ce que c'est la citoyenneté pour elles, qu'est-ce que c'est gérer la ville, qu'est-ce que c'est en fait s'approprier cet espace. Donc ce n'est pas que au niveau urbanistique, mais comme l'a dit Amélia, la gestion des infrastructures en ville font un mode de vie aussi, parce que pour l'instant, qu'est-ce que représente la ville quand on fait les ateliers avec ces femmes? C'est un endroit stressant, dangereux et sale, quoi, puant. Donc c'est sûr que ce sont des intérêts bassement matériels, mais que si on changeait ça, on arriverait à peut-être une plus grande rencontre homme-femme à toute heure. Et donc je pense que les ateliers Compte que j'ai réalisés à la Maison Mosaïque ont pu développer aussi la parole de la femme au niveau philosophique aussi, et qui partait de réalité et de vécu, et qui était des fois plus subtil que juste mettre un peu de lumière, rendre les trottoirs plus larges. Bon, ça, ce ne sont que les aspects techniques.
Et Amélia, tu nous parlais des bureaux du temps quand on était en hors antenne avant de venir à cette émission. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les bureaux du temps en Italie? Tu nous parlais de cette loi sur les horaires. Oui. Si tu t'en sens capable, tu avais l'air de bien maîtriser le sujet,
mais
Amélia.
Je vais commencer, peut-être que vous allez compléter ce que j'ai dit. Mais en fait, c'est que c'est un peu dans le sens de ce qu'on disait avant. C'est que il n'y a pas que l'espace matériel de l'espace construit de l'espace public, mais il y a aussi toute la question de l'offre des services, du fonctionnement de cet espace, de tous les autres des activités qui sont qui doivent être accessibles à tous et qui garantissent le fonctionnement de cet espace public et qui sont aussi souvent la raison pour laquelle on est dans l'espace public. Et donc une façon aussi de gérer la ville, gérer la cité et de façon à favoriser l'appropriation de l'espace public, c'est garantir une offre de services qui correspond aux besoins des usagers potentiels. Donc on a remarqué par exemple qu'il y a plusieurs services pour lesquels les femmes sont des usagers prioritaires, mais que les horaires de ces services, les horaires d'accessibilité de ces lieux ne sont pas toujours les plus intéressantes pour les femmes. On parlait par exemple de guichets administratifs qui fonctionnent dans les horaires où les femmes ne sont pas libres parce qu'elles sont occupées avec d'autres activités, surtout enfants et familles. Et on pourrait parler aussi de l'offre de garde d'enfants, ou des horaires de fonctionnement de centres de santé, ou tous ces types de choses. Et donc, il y a, en Italie, il y a une expérience, je ne la connais pas à fond, mais en principe, c'est l'idée que, puisque ce sont des sujets qui concernent directement les femmes, on devrait réfléchir sur ce type de service avec la collaboration de ces groupes de la population. Et on a fait un projet, une politique, c'est la politique du temps,
je crois.
Oui,
mmh.
Qui c'était justement de ça donnait aux administrations municipales l'autonomie pour gérer les horaires d'ouverture de certains services. Et ces horaires étaient définis avec l'aide des usagers féminines de la ville, du quartier.
Je te remercie beaucoup, Amélia. Nous allons avoir une petite pause musicale. Oui. Et donc, c'est Benabar, Bruxelles.
Je n'avais pas de cadeau pour t'offrir à Noël. J'en voulais un très beau, j'ai pensé à Bruxelles. Offrir une ville, c'est vaniteux, je le reconnais mais je m'en fous.
Bonjour chers auditeurs, chers auditrices, vous êtes sur Radio Panique 105.4 et vous écoutez l'émission de Vie Féminine Bruxelles, elles en parlent encore. Le thème de l'émission aujourd'hui porte sur l'espace public. Nous arrivons bientôt à la fin de notre émission. Et donc, je souhaiterais demander à nos invités quelles seraient leurs revendications, leurs souhaits pour améliorer la question des femmes accédant à l'espace public sous toutes ses dimensions, que ce soit la gestion, l'aménagement, les travaux, relations hommes-femmes. Je vais donc passer la parole à Yolaine.
Alors, je vais commencer ma revendication sur les rapports hommes-femmes dans l'espace public. Je dirais une phrase très slogan, mais arrêtons de croire qu'une femme seule le soir est une femme célibataire. Ce serait déjà un premier pas de respect. La deuxième revendication, c'est sur plutôt les procédures de concertation. Et là, je pense qu'il serait vraiment primordial et urgent de mettre plus de femmes au poste clé. Quand je pense aux postes clés, je pense aux postes de haute décision, je pense à ceux de médiation, ceux de coordination. En fait, je pense à tous les postes qui ont attrait à la communication et à l'organisation, parce que je pense que c'est les deux points forts des femmes. Vu qu'elles organisent déjà la famille, je veux dire, même sans travailler, elles ont déjà un sens organisationnel assez poussé. Alors, sur la gestion de la ville avec lecture du genre, je pense qu'il serait vraiment important d'avoir plus de médiateurs et d'agents de proximité dans les rues, dans les parcs et dans les transports en commun. Je sais que la STIB a lancé ça il y a quelques années avec donc des agents de la ville qui aident les personnes âgées à monter et descendre du bus. Alors, je trouvais l'initiative formidable, mais malheureusement, on les voit plus. Ils sont très, très rares, ces personnes-là. Et donc, ce serait bien de ce côté-là. Et je vais mettre mon petit grain de sel personnel. J'aimerais qu'il y ait des cours de civisme et de secourisme gratuits, je dis bien gratuits, dans plusieurs communes. Et je pense que ça améliorerait également les rapports hommes-femmes dans l'espace public. Alors, une dernière revendication, c'est sur plus précisément les constructions et les aménagements de l'espace public. Alors, bien sûr, je demande plus de lumière, mais ça, je suis sûre que... C'est la première revendication de tout le monde. Mais alors, je voudrais quand même mettre éclairé, justement, les pouvoirs publics sur, évidemment, les trottoirs. Parce que des trottoirs sans dalles ou sans pavés, ça réglerait le problème de réparation qui se fait tous les 5 ans, de personnes âgées ou de femmes qui se coincent le talon dans les trous. Donc, il y a assez de matériaux nouveaux qui pourraient lisser, rendre des trottoirs lisses et... qui serait économique aussi. Et alors, un autre petit commentaire sur les trottoirs. Mettre des arbres, c'est bien beau, mais au milieu du trottoir, il n'y a ni les poussettes, ni les chaises roulantes qui savent passer, et ça fait que les racines de l'arbre cassent complètement le trottoir. Donc, si vous mettez des arbres, soyez bien gentils, vous les mettez soit entre des places de parking ou au bord du trottoir, et je suis sûre que tout le monde serait ravi. Et voilà, peut-être juste encore un dernier petit coup de gueule par rapport aux pubs. C'est que les publicités sont de plus en plus dénudées et sexistes. Je trouve, tout comme vous, que le corps de la femme est très beau et il ne faut pas le cacher. Mais quel est l'avantage de la femme dite libérée, si en fait ce n'est pas d'être, de pas être la femme soumise, cloîtrée à la maison, mais en fait d'être une espèce d'objet sexuel. Moi, j'appelle pas ça la libération, j'appelle ça la soumission au désirata sexuel des hommes. Donc voilà, je sais que je vais un peu fort avec mes mots, mais on peut être très féminine sans exhiber tous ses atouts sexuels. Et il serait temps que la publicité qui vise les femmes, puisque ce sont les majoritaires dans la consommation, ben, demande peut-être l'avis aux femmes, qu'est-ce qu'elles voudraient comme genre de pub.
Merci. Merci Yolaine. Amélien, aurais-tu quelques souhaits pour améliorer la situation?
Mais bon, je suis d'accord avec ce que dit Yolaine. Mais je pense qu'elle a un peu parcouru toutes les entrées. Mais je dirais qu'en principe, c'est, je pense qu'en termes d'urbanisme, il faut vraiment reconnaître l'importance d'une lecture du genre, de la ville à partir du genre. Et si on l'a fait, on va voir que certaines données qui sont aujourd'hui à la base de l'aménagement et de la planification territoriale, ils sont faussés parce qu'on ne fait pas la lecture, on ne distingue pas ce qui est homme et femme dans ces...
Merci Amélia. Najat, est-ce que tu as deux, trois souhaits à émettre?
Oui, je voudrais d'abord dire comme quoi ce que nous avons entamé comme travail sur l'espace public, nous allons continuer ce travail. Et les femmes, quand elles entreprennent quelque chose, elles vont jusqu'au bout. Et alors, il y a des revendications. Par exemple, mettre sur place un comité de femmes dans les quartiers, de femmes, et je précise de femmes, diversifier les places publiques selon les besoins des citoyens et sensibiliser les citoyens à la participation de la protection des lieux publics et engager des gardiennes ou des gardiens. Les deux vont ensemble.
Je te remercie, Najat. Élise, je te passe la parole pour terminer cette émission.
Oui, bah, évidemment, par rapport à tout ce qui est autodéfense, moi, ce que je demanderais, c'est plus de, enfin voilà, être s'engager plus dans la promotion de tout ce qui peut aider les femmes à se défendre par elles-mêmes, parce que bon, je pense que aider les femmes par de l'éclairage et tout ça, c'est une part du boulot qui est super importante, mais qui, quelque part, laisse les femmes encore en position de victime, comme si elles-mêmes n'avaient pas de moyens, alors qu'en réalité, elles en ont plein. Et donc, voilà. Moi, je pense qu'au niveau de l'éducation, dans les écoles et tout ça, on pourrait peut-être envisager d'intégrer au programme d'une façon ou d'une autre, même si c'est des ateliers indépendants du cursus, mais des ateliers d'autodéfense, de défense verbale, de réflexion autour des rapports garçons-filles, de comment est-ce que les filles peuvent se défendre. Voilà.
Je te remercie, Élise. Alors, si vous êtes intéressée à en savoir plus sur cette émission, vous pouvez appeler Vie Féminine Bruxelles et nous vous donnerons toutes les coordonnées de nos invités qui se feront un plaisir de répondre à vos questions. Donc, le numéro de téléphone, c'est 02 513 69 00. Voilà. Sinon, je souhaitais remercier les Dominique, Virginie, Tamara pour la préparation de ces émissions. Je souhaitais remercier tous nos invités, Amélia, Élise, Yolaine et Najat, pour leurs interventions pertinentes. Et je pense que nous enverrons cette émission à toutes les autorités publiques. Voilà, la prochaine émission aura lieu le 24 novembre et portera sur le logement, samedi 24 novembre de 13h à 14h et sera animée par Dominique. Je vous remercie. Au revoir.
Elles ont des âges différents, des nationalités différentes. Elles ont des opinions différentes, des personnalités différentes. Elles les confrontent pour aller à votre rencontre. Elles en parlent encore tous les 4e samedi du mois, une émission de Vie Féminine Bruxelles sur Radio Panique 105.4 FM.